Le débat africain. Alain Foucault.
13 août 2015, le Parlement mauritanien adopte enfin une loi contre l'esclavage. Cette pratique sera désormais considérée comme un crime contre l'humanité. Mais ce nouveau texte qui intègre et double des peines d'emprisonnement à l'encontre de ceux jugés coupables et qui intègre des juridictions spécialisées et une assistance juridique, a-t-il fait évoluer la situation dans le dernier pays à avoir aboli l'esclavage? C'était en 1981. La Mauritanie, où selon différents rapports d'ONG, l'esclavage frappe encore plus de 150 000 Mauritaniens, soit 4% de la population, essentiellement haratine, est-elle vraiment en train de tourner le dos à cette pratique ancestrale ou tient-elle un double discours au regard, entre autres, de la répression qui frappe les militants anti-esclavage? Quel bilan dressé de cette loi contre l'esclavage? Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré ce dimanche à l'état des lieux et au bilan de la loi contre l'esclavage en Mauritanie. Plusieurs invités sur ce plateau et en ligne au téléphone en direct de Nouakchott, la capitale mauritanienne. D'abord, Aminatou Mint El Mokhtar, la présidente de l'Association mauritanienne des femmes chefs de famille, l'AFCF, pressentie il y a quelque temps pour le Nobel de la paix en 2015. Madame Mint Mokhtar est en direct de Nouakchott. Bonjour Madame Mokhtar.
Bonjour.
Seront invités, toujours en direct au téléphone dans la même ville, Maître Brahim Ebeti, avocat à la Cour. Il est avocat, entre autres, de militants anti-esclavagistes de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Bonjour Maître Ebeti.
Bonjour.
Toujours en direct de Nouakchott, je pense qu'il nous rejoindra en cours d'émission, Boubacar Oul Messaoud. On espère que le président de l'ONG SOS Esclaves nous rejoindra. Et puis sur ce plateau, dans ce studio 41 des RFI à Issy-les-Moulineaux, Maître Jamal Oud Mohamed, avocat et ambassadeur itinérant du président mauritanien, dont il est également un des conseillers que l'on voit régulièrement sur les plateaux d'une chaîne de télévision locale. Bonjour, cher.
Bonjour, Alain Foucault.
Juste à côté de vous, pour cette première partie, Ousmane Sow, chercheur en sociologie, responsable de l'association cadre de concertation et de dialogue mauritanien de la diaspora. Bonjour, Ousmane Sow.
Bonjour.
Et notre dernier invité, et pas des moindres, est Monsieur Abderrahmane Coulibaly, le cofondateur de SOS Esclaves et observateur de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Monsieur Coulibaly est un militant défenseur des droits de l'homme. Bonjour, Monsieur Coulibaly.
Bonjour, monsieur.
On me fait signe de l'autre côté que Monsieur Messaoud nous a rejoint. Merci d'être là. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Coulibaly. Peut-on dire que l'esclavage existe en Mauritanie? Je sais que c'est votre bataille. Est-ce que les choses ont changé depuis cette loi?
Écoutez-moi très bien. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Tout de suite. Moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est-à-dire c'est la forme qu'on donne à l'esclavage. Quand on parle d'esclavage, tout de suite, les gens vont souhaiter c'est une communauté, à savoir la communauté arabe avec laquelle nous vivons. Or, moi, je n'ai pas cette lecture, justement, de ce fléau. Il n'y a pas de bon esclavagiste, il n'y a pas de bon esclavage. L'esclavage existe dans toutes les communautés mauritaniennes, à commencer par la mienne, comme communauté Soninké, Poulard, Wolof. Je veux que les gens soient quand même, ne soient pas malhonnêtes intellectuellement. Il faut que ce soit très clair. Quand on veut combattre ces fléaux, il faudrait qu'il y ait cette émergence de toutes les forces démocratiques et de toutes les communautés composantes de la Mauritanie, et non pas seulement en s'en prendre à une communauté, à savoir la communauté arabe. J'ai toujours combattu cette idée.
Pour l'instant, on n'est pas en train de pointer du doigt une communauté. On demande si elle existe.
Ouais, elle existe quand même sous multiforme. Elle existe. C'est incontestable ça, que l'esclavage existe en Mauritanie encore, malgré les efforts, malgré les réformes qu'on entend depuis 80 et quelques. On parle de cette réforme. Depuis 81.
Aminatou Mint El Mokhtar, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, moi je pense que l'esclavage existe un peu partout d'une manière transversale au niveau de toutes les communautés, à degrés différents bien sûr, parce qu'il y en a qui existent encore au niveau de relations sociales, c'est-à-dire le mariage. Il y a d'autres qui existent encore sous toutes les formes d'exploitation, c'est-à-dire toutes les formes de l'esclavage qui naît avec la personne. L'esclavage par ascendance et sous forme aussi toutes les
formes. Ce qu'on a appelé les castes ailleurs, en fait.
Oui.
Ce qu'on a appelé les castes.
Mais là, je crois qu'aussi avec la loi, il y a eu des efforts. Mais malheureusement, ces efforts restent encore sans l'impact escompté. Tout d'abord, dû à la négation de l'esclavage, parce qu'officiellement, on dit que l'esclavage n'existe pas. Et ça encourage les maîtres esclavagistes de continuer à exploiter et à continuer cette pratique. Donc, on parle aussi d'esclavage. L'esclavage, aujourd'hui, c'est synonyme des femmes, de l'exploitation des femmes et des enfants.
Là, c'est un autre volet dont on pourra parler. Là, je me tourne de suite vers M. Sao, qui est sociologue. Pour vous, il existe cet esclavage en Mauritanie?
Officiellement, l'esclavage n'existe pas en Mauritanie, officiellement, si on le dit comme ça. Selon les lois qui sont mises en vigueur actuellement, l'esclavage n'existe pas en Mauritanie officiellement. Mais c'est une pratique qui est encore, qui reste vraiment bien qu'anciennement, historiquement ancrée dans la société mauritanienne, qui fait qu'aujourd'hui, on parle de conséquences, surtout des conséquences de l'esclavage. C'est surtout ça.
Parce que... Mais dans la pratique au quotidien, est-ce qu'on croise encore des esclaves dans les familles, des esclaves qui sont là à la merci mais de leur maître, comme ça a toujours existé pendant une longue période en Mauritanie?
Non, parce que ça a été interdit de toute façon.
Officiellement, vous
officiellement, c'est interdit et il est interdit même de pratiquer l'esclavage en Mauritanie. Que toute personne qui a été, qui est prise ou bien qui est prise en flagrant délit sera jugée. Donc la loi mauritanienne est très claire là-dessus.
Oui, sur la loi, c'est clair. Maintenant, sur la pratique, Maître Jamal.
Alors, la question n'est pas de mon point de vue, est-ce qu'il existe esclavage ou pas sous cette forme-là.
Si, c'est la question. Non, parlons de l'esclavage, on ne va pas entrer dans le côté politique de la chose.
Mais vous posez la question au gouvernement mauritanien, la réponse est simple. Non, l'esclavage tel que vous le définissez, tel que vous l'avancez avec des chiffres qui sont de mon point de vue absolument surréalistes, parce que personne n'a fait une statistique pour savoir ce qu'on en a 550 000, 200 000 ou 1 million. Le gouvernement mauritanien dit lui-même, oui, nous avons des séquelles, oui, nous avons des problèmes. Nous avons tellement des séquelles et des problèmes que nous sommes en train de les combattre. Un, nous avons fait une feuille de route avec les Nations Unies, c'est que nous avons un problème, nous voulons le régler. Deux, nous avons mis en place des tribunaux spéciaux. Trois, nous avons fait une forme.
Donc c'est la preuve que ça existe.
Non, je finis justement, laissez-moi continuer mon raisonnement. On a mis en place donc une agence de ce qu'on appelle discrimination positive, j'ai hais ce mot. Non, comme on dit aux États-Unis, affirmative action. On a mis en place une action positive en faveur de ceux qui ont été victimes de l'esclavage. Mieux, le commissariat mauritanien des droits de l'homme emploie salariés, paye y compris des femmes seules. Si vous considérez que ça c'est de l'esclavage, le gouvernement mauritanien vous dira oui, nous avons des séquelles encore, nous avons encore des soucis. Si vous cherchez la forme telle qu'elle est défendue par des gens ou des autres dont les volontés, les ambitions, parfois non avouables, sont ce qu'elles ont, elles n'ont pas de sens, évidemment. Et puis, il y a une problématique, et j'en finis, pardon, j'en reviens, que ce que M. Koulibaly a dit est vrai. Je pense que la plus mauvaise défense, c'est de dire, ah ben non, chez les morts, il y en a, chez les autres, il n'y en a pas. Et même chez les morts, de dire, il n'y en a pas chez nous, il y en a chez les autres, c'est une mauvaise manière de se défendre. Et il a raison. L'image qu'on veut donner, c'est l'arabe pervers, raciste, esclavagiste. Si on veut présenter la Mauritanie comme ça, c'est dégueulasse, c'est honteux. Si on veut dire...
Là, c'est le politique qui parle.
Non, pas du tout.
J'en aurais fini.
Si on veut dire qu'en Mauritanie, il y a des problèmes et que les problèmes, il faut les régler, oui, absolument, le gouvernement mauritanien est le premier à le dire.
Maître Ebeti, votre point de vue sur la question.
Écoutez, personnellement, je pense que l'esclavage en Mauritanie est un phénomène essentiellement socio-économique. C'est un phénomène qui existe dans toutes les communautés. Je ne pense pas qu'on doit parler seulement de séquelles, mais aussi on doit parler de pratiques. Et la preuve en est que la Mauritanie a institué l'esclavage comme crime contre l'humanité, a créé des tribunaux pour punir et sanctionner tous ceux qui le pratiquent. Autrement dit, il faut être conséquent avec soi-même, reconnaître la réalité, mais travailler pour qu'elle soit jugulée. Je reconnais qu'il existe dans toutes les communautés. Je reconnais aussi qu'il y a eu des progrès très important en ce sens qu'on parle aujourd'hui d'esclavage en Mauritanie, sur les plateaux de télévision, partout dans le pays. Mais le regret, c'est qu'on pense qu'il n'y a que des séquelles alors qu'il y a encore des pratiques qui existent. Et il faut travailler pour les éradiquer, notamment dans le domaine social, dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine culturel.
Je me tourne vers Aminatou Mint El Morta. Lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule forme de, on va dire, d'esclavage en Mauritanie, et là, on écoutait à l'instant Maître Jamal dire, il y a les séquelles, il n'y a pas de pratique à proprement parler. Comment vous réagissez à cela? Il a raison ou pas?
Voilà, moi j'estime qu'il y a encore des pratiques, comme je l'ai toujours dit, des pratiques qui existent encore et qui sont là. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'il y a eu des procès. Il y a eu un procès à Nema, il y a eu un autre procès à Zouera. Donc, on ne fait pas le procès pour le procès. C'est qu'il y a une pratique qui est là, il y a des victimes qui sont là. L'esclavage, il existe. et il existe encore ces séquelles qui sont plus nombreux que les cas d'esclavage, ça c'est sûr. Mais je crois que le fait de nier l'existence de l'esclavage, ça ne contribue pas au règlement de la problématique.
De la question. Là, je me tourne cette fois vers Abderrahmane Coulibaly. Je vous voyais réagir rapidement.
Tout à fait. Vous savez, quand on crée un arsenal de moyens pour lutter contre un fléau, ça veut dire qu'il a existé déjà. Sinon, ce n'est même pas la peine
existe.
Qu'il existe déjà. Moi, si je parle même de ma propre communauté, l'esclavage existe. Moi, je veux que les gens tiennent compte de ce phénomène. Il existe. Que ce soit chez moi, que ce soit à l'autre part, il existe.
C'est quoi votre communauté?
La communauté Soninké, par exemple.
Soninké.
Je ne parle même pas loin. Même ici, là où nous vivons, là, le pays de la lumière, savoir la France ici, il y a certaines pratiques ou certains sous-entendus ici, vraiment de galasse. Vous voyez, quelqu'un qui est soi-disant, qui est issu de la basse classe, quand il veut épouser un soi-disant noble, c'est un scandale. Moi, j'ai vu taire un certain nombre de noms ici.
Dans la diaspora.
Dans la diaspora, ici même, il y a la diaspora ici, les cas s'opposent. Vous êtes, soi-disant, esclavagiste, quand votre esclave aujourd'hui veut sortir avec votre fille, c'est un scandale. Donc ça existe. Ça, dans les mentalités archaïques, ça existe. Faut pas qu'on se trompe. Moi, ce que j'ai vu, il faudrait que ce combat soit généralisé. Faut pas seulement essayer de le singulariser. C'est à tous les niveaux de la société mauritanienne, malheureusement, que ça existe. Bon, mon ami Jamal disait que de toute façon, dès l'instant que le régime a déjà créé des moyens pour lutter contre un phénomène, ça veut dire que le phénomène existe, Jamal, tu peux le reconnaître.
Je n'ai pas dit le phénomène existe, j'ai dit encore
une
fois.
Il existe.
Tout est dans la définition qu'on vient de donner. Notre conception à nous est claire. Ce que nous considérons que nous vivons dans une société où les mentalités sont difficiles à faire évoluer, nous vivons dans une situation pire encore, dans les contrées lointaines de la Mauritanie, il y a des soucis, et je veux dire, il y a tellement de soucis que le juge mauritanien vient de condamner Anema, le juge Ba Aliou vient de condamner Anema une personne pour pratique de ce que nous appelons ce qu'est l'esclavage. Pardon, appelez-le comme vous le souhaitez, vous. Nous en donnons une définition. Pardon.
Oui, mais
nous
en donnons. La définition de l'esclavage elle est universelle.
Mais très bien. Alors, si vous êtes dans la rigueur de la définition, pardon, ce que dit M. Coulibaly est absolument vrai. Et l'esclavage, à ce moment-là, ne s'arrête pas là. Ce que dit Aminatou Mokhtar dans les formes modernes de l'esclavage, ne s'arrête pas là. Et à ce moment-là, ne focalisons pas sur la Mauritanie. Allons au Bénin, allons au Congo, allez un peu partout. Je vous souhaite bonne chance. Et à ce moment-là, j'en aurais fini. Et à ce moment-là, vous allez comparer une chose. Quelle est l'action du gouvernement mauritanien? Est-il totalement dans les dénis absolus et qu'il refuse une situation de
la
combat?
La Mauritanie n'est pas.
Personne ne peut le dire.
Je vais vous dire.
C'est le seul gouvernement, s'il vous plaît, dans la région, dans le pays, qui fait des pratiques concrètes de lutte contre l'esclavage dans ces cas-là. C'est le seul gouvernement de la région. Attendez, c'est le gouvernement de la région qui a consacré le tiers de son budget.
Vous êtes. Vous ne parlez que politique. Parlons-le.
Je ne parle pas de politique, je parle de droit, monsieur.
Je suis en train de vous dire, mais bien sûr
qu'on est dans le droit. Mettre en place des tribunaux, spéciaux, criminaliser l'esclavage, le déclarer comme étant pire, un crime contre l'humanité, et mieux, à telle info, quelque chose de plus importante. On donne le droit aux ONG de se constituer un parti civil. Je vous parle là de choses concrètes. Excusez-moi, c'est le gouvernement mauritanien qui l'a mis en place, je veux dire. C'est probablement l'un des rares gouvernements qui est en avance de ce point de vue-là. Et c'est les ONG, c'est les opérateurs. Mais comme nous sommes,
écoutez les autres. Vous êtes comme dans un prétoire, là. Là, quand vous partez, vous arrêtez. Là, il est question tout simplement de dire le gouvernement mauritanien reconnaît qu'il y a le problème et met des juridictions.
Tout est question de définition, encore une fois.
Non, on ne va pas partir dans les questions de sémantique.
Mais vous êtes obligé parce que c'est
Maître
important.
Maître Betty.
Moi, je crois qu'il faut faire un distinguo entre la pratique et les séquelles. On ne peut pas condamner une personne pour des séquelles. Mais on condamne une personne pour un fait de pratique. Le procès qui a eu lieu à Neima, le procès qui a eu lieu à Zouera, c'était des pratiques esclavagistes. Et je pense personnellement que c'est louable que le gouvernement mauritanien accepte de créer ces tribunaux, de poursuivre et de juger tous ceux qui sont en infraction pour pratiques esclavagistes. Mais vouloir que de tout soit des séquelles, je crois que c'est une erreur extrêmement grave. D'autant plus que dans un pays où on qualifie l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais vous savez, un crime, ce n'est pas, des séquelles ne peuvent pas être des crimes. Mais le problème, je reviens encore là-dessus, le problème de l'esclavage, ce n'est pas un problème politique. Il n'y a jamais eu en Mauritanie un gouvernement qui défend l'esclavage.
C'est clair.
Qui défend les esclavagistes. Mais plutôt, il y a des insuffisances en matière d'action pour reconnaître. Dans le passé, tous ceux qui
parlait d'esclavage ou qui reconnaissait l'esclavage était persécuté. Heureusement qu'actuellement, cette situation n'existe plus. On ne persécute plus ouvertement en termes de dire, écoutez, vous êtes contre la Mauritanie parce que vous dites qu'il y a esclavage. Aujourd'hui, le pouvoir accepte qu'il y a l'esclavage. Mais il doit être conséquent avec lui-même pour reconnaître cette réalité et travailler ensemble, de main dans la main, pour que nous puissions juguler ce phénomène de notre société.
Absolument. Alors, là, on se tourne vers Boubacar Oulmessaoud, qui n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Lorsque vous écoutez cela, vous qui êtes le président de l'ONG SOS Esclaves, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, qu'est-ce que j'en pense? Ma pensée est claire. L'esclavage existe dans notre pays. Et nous disons que nous n'indexons aucune communauté particulièrement. Nous estimons que la société mauritanienne, dans son ensemble, est profondément inégalitaire. Et nous travaillons sur l'esclavage.
Mais est-ce que l'inégalité, c'est l'esclavage? Parce qu'en termes d'inégalité, il y en a partout dans le monde.
Mais je finis, monsieur. Il faudrait bien attendre que je termine ma phrase pour vous la juger. Donc je dis que l'esclavage chez nous, c'est un esclave, c'est une propriété. C'est la personne, c'est une personne sur laquelle on exerce tous les attributs de propriété. Et ceci existe encore en Mauritanie. Les esclaves peuvent être vendus, ils peuvent être donnés, ils peuvent être prêtés, ils peuvent être loués. Et ceci existe encore en Mauritanie. Nous avons pour preuve les cas d'esclavage qui se sont adressés à notre organisation et que nous avons accompagnés jusqu'au procès. Et parfois, il n'y a pas de procès parce que souvent, les affaires sont classées sans suite par les autorités judiciaires.
C'est quand même grave ce que vous dites lorsque vous dites que l'esclave peut être encore vendu en Mauritanie, encore prêté, encore loué.
C'est grave.
Mais est-ce que ça peut exister vraiment, ça? Est-ce que vous avez des exemples?
Vous semblez me faire peur. Oui, je le dis. Les esclaves sont encore vendus. Des hommes et des femmes sont encore vendus. Et ils ont été vendus par le temps. Ils ont été molitroqués.
Aujourd'hui encore, M. Oulmessaoud?
Je ne vous présenterai pas des gens vendus aujourd'hui, ni des gens achetés. Mais je vous dis que dans la pratique mauritanienne, on l'a fait et nous en avons connu. Et moi, je lutte contre l'esclavage depuis 35 ans. Et en 1980, quand nous avons été arrêtés et jugés à Rosso, c'était suite à la vente d'une femme à Attar. Parce que nous avons appris qu'une vente de femme à Attar a été faite presque publiquement. C'est-à-dire publiquement, et on a fait des manifestations à Ouagadougou, à Attar et à Nouakchott. Et c'est comme ça qu'on nous a arrêtés. Nous avons été conduits, 8 personnes, 8 responsables de LFOR. À Rosso pour nous juger, et nous ont jugé, et c'est ce qui a déclenché le processus qui a abouti à l'abolition de l'esclavage un an et demi après.
Mais là, ce dont vous parlez, monsieur Messaoud, ça date d'une certaine période. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il existe des marchés ou des personnes qui peuvent ainsi vendre impunément d'autres?
Il y a des marchés. Attends, monsieur, je n'ai pas dit qu'il y a des marchés d'esclaves. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Non, je vous force pas à dire ce que vous n'avez pas dit, mais vous dites qu'on peut encore vendre et prêter.
Doucement, laissez-moi. Selon mes informations et mes connaissances, la colonisation française avait réussi. La seule chose, c'est qu'elle a empêché la vente des esclaves sur les marchés. Mais on les vendait sous le manteau. Et on continue à les vendre sous le manteau. Et quand j'ai dit tout à l'heure que nous étions tellement choqués qu'à Attar, quand on a vendu cette femme-là, c'était quasiment public, pratiquement. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, je pense que et puis, ce n'est pas seulement la vente, vous vous approchez à la vente. Mais on vend, quand on a un produit, qu'il soit vivant ou mort, on peut l'échanger, on peut le vendre.
Bien. On va en parler dans la seconde partie du débat africain parce que ce que vous dites est très très grave et on aimerait bien avoir des exemples. On va se tourner vers ceux qui sont sur ce plateau ou au téléphone et nous dirons s'ils ont eu encore des cas de vente de personnes dans un pays qui a quand même déclaré l'esclavage crime contre l'humanité. On en reparle dans une dizaine de minutes juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la seconde partie du débat africain. On se retrouve très vite.
Religion du monde.
Le débat africain. Alain Foucault.
Des textes ont été votés avec d'importantes dispositions pour sanctionner les contrevenants. La Mauritanie en a-t-elle fini avec l'esclavage? Les 4% que l'on dit soumis à ce régime depuis des décades ont-ils enfin pu se libérer de leur chaîne après cette loi du 15 août 2015 qui adopte l'esclavage comme crime contre l'humanité? Bonjour et bienvenue dans la seconde partie du débat africain consacré cette semaine à l'esclavage en Mauritanie avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord Aminatou Mint El Mokhtar, la présidente de l'Association Mauritanienne des Femmes Chefs de Famille, l'AFCF, pressentie pour le Nobel de la paix en 2015. Madame Mint est en direct de Nouakchott. Second invité, toujours en direct au téléphone dans la même ville, Maître Brahim Ebeti, avocat à la Cour. Il est avocat, entre autres, de militants anti-esclavagistes de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Toujours en direct de Nouakchott, Monsieur Boubacar El Oulm Messaoud, le président de l'ONG SOS Esclaves. Et sur ce plateau, dans ce studio 42 de RFI à Issy-les-Moulineaux, Maître Djemal Oul Mohamed, avocat et ambassadeur itinérant du président mauritanien, dont il est également un des conseillers. Et notre quatrième invité est M. Ousmane Sao, qui est sociologue-chercheur. Notre dernier invité est M. Abderrahmane Koulibaly, le cofondateur de SOS Esclaves et observateur de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. M. Koulibaly est un militant défenseur des droits de l'homme. Lorsque nous avons fini la première partie de ce magazine, nous avons été frappés par le fait que M. El Messaoud nous a dit qu'on vendait encore des esclaves, que lorsqu'on a une propriété, on continue de la vendre. Je vais me tourner vers la femme d'abord du plateau, qui est Madame Aminatou Mint El Mokhtar. Est-ce que ça existe encore, très honnêtement, aujourd'hui?
C'est pas ce que j'ai compris dans l'idée de Boubacar. Boubacar disait que la vente d'esclaves existait dans le temps, mais pas aujourd'hui.
Mais pas aujourd'hui, c'est ce que très bien. J'ai compris. Ça nous rassure.
Je ne peux pas dire que existe actuellement la vente des personnes.
Je vous vois réagir, M. Koulibaly.
Tout à fait. De toute façon, sur le terrain, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais il ne faut pas qu'on confonde aussi les époques. Il y a de cela quelques années, les telles pratiques existaient. Ben moi, je l'envoie même à la lecture de documents, enfin de l'écrit de sociologue sénégalais, l'historien, là, Ndiaye, intitulé... l'esclavage violé, c'est important. Je comprends. Ça existait il y a des années. Mais là, maintenant, sur le terrain, vraiment, je n'ai pas d'éléments confirmant cela.
Voilà. Maître Ebétis, est-ce que vous qui êtes sur le terrain, sur place, vous avez déjà croisé ça?
Non, pas du tout. Donc, j'estime qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de marché d'esclaves.
Il n'y a pas de marché d'esclaves.
Crois que Aminatou a eu raison de redresser la compréhension de l'idée de Votar. Votar n'a pas dit qu'elle existe actuellement, qu'elle existait peut-être.
Elle existe il y a longtemps. Maître Jamal.
Alors, c'est quand même extraordinaire. Tout le monde sur ce plateau, même ceux qui ne sont pas sur ce plateau, reconnaissent qu'il n'y a plus de pratique d'esclavage, qu'il n'y a pas de marché d'esclaves et qu'il n'y a pas
Ils n'ont pas dit qu'il n'existe pas d'esclavage. Ils ont dit qu'il n'existe pas de marché. Alors, c'est pas la même chose.
Non, mais en tout cas, toujours est-il, c'est que, à entendre ce qui est dit, en déduire ce qu'il faut déduire, c'est que finalement, la conception du gouvernement mauritanien relative à la séquelle de l'esclavage n'est pas si absurde que ça, finalement. Parce qu'après tout, dire qu'il y a des séquelles d'un phénomène n'est pas le nier en soi.
Oui, mais on ne ferait pas un tribunal pour des séquelles, comme l'a dit Maître Ebeti tout à l'heure.
Bien sûr que oui, c'est suffisamment grave. Il s'agit de traite d'êtres humains. Ouais. Quand il y a des séquelles des traites d'êtres humains, vous faites exactement ce qu'il faut pour que jamais ça soit possible. Alain Foucault, quand il y a un esclave chez nous, nous sommes misérables. Quand il y a une pratique d'esclavage chez nous, c'est horrible et on ne peut pas accepter ça. Et donc, le gouvernement mauritanien, tous les gouvernements successifs mauritaniens ne se sont jamais préoccupés de ce problème de cette façon. La première loi a été votée sérieuse à partir de 2007. Et à partir de 2007, s'il vous plaît, l'arsenal juridique qui s'en est suivi est d'une clarté absolue.
Oui, mais on ne fait pas un arsenal s'il n'y a pas un phénomène.
Mais bien sûr qu'il y a un phénomène. Mais attendez, il y a tellement un phénomène à l'infoca qu'on a appelé les Nations Unies. On leur a dit, donnez-nous la clé, donnez-nous une solution, aidez-nous. Ils nous ont donné une feuille de route.
Il est là.
Et pardon, mais je finis. Ils nous ont donné une feuille de route. Je vais finir. Ils nous ont donné une feuille de route et la feuille de route, on est en train de la mettre en application. C'est que nous avons un problème. Mais la question,
Je veux bien la volonté politique. Mais
c'est
le déni, là on est dans le déni.
On est loin du déni. Il est où le déni?
Quand vous dites que ça existe pas.
Non, je vous ai dit.
Et on fait un arsenal juridique.
La définition que vous, que certains, que ceux qui veulent donner à l'esclavage aujourd'hui
dans
sa réalité.
Mais si vous vous tournez vers l'ONU, c'est la même définition.
Absolument pas. Lisez le rapport des Nations Unies, vous verrez bien que
quand les Nations Unies vous donnent un document pour vous accompagner, c'est pourquoi.
Eh bien, je vais vous le dire. Vous voulez que je vous le lise? Il est là sous les yeux.
Non, on n'a pas le temps.
Très bien. Il nous donne une chose simple. Il considère que la loi de 2005 est bonne. Il nous demande de l'amender, ça a été fait. Il nous demande un accès de formation, la formation des magistrats. Pardon, tout ça a été fait.
Oui, mais
la question,
on n'a pas demandé ça aux autres nations.
Mais on n'a jamais dit qu'il n'y avait rien. séquelles. Non, c'est vous qui dites qu'on est dans les séquelles.
Non, pas du tout.
On va donner la parole à monsieur Ousmane Sow.
Oui, quand j'en aurai fini.
On s'est tous entendus là-dessus, c'est que actuellement, on ne vend plus d'esclaves en Mauritanie. Mm-hmm. Donc, sur cette question, on peut le dire ouvertement. Donc, c'est le passé qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de l'esclavage. Mm-hmm. Moi, en tant que sociologue, je ne parle pas de la question politique parce qu'il y a des positions que je respecte pour tout un chacun. Mais je vais un peu sur la situation sociologique de la question. On a vécu la pratique de l'esclavage en Mauritanie et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences transgénérationnelles qui sont... Vraiment, aujourd'hui, là, actuellement, ce sont les fils d'esclaves.
Mais comment on fait le tribunal pour juger les conséquences transgénérationnelles?
Non, les lois sont là. Donc, j'aimerais demander, parce qu'il y a toujours des coins reculés, parce qu'on peut dire peut-être que ça échappe. Il y a peut-être quelques coins qui sont reculés.
Ça existe.
Ce qu'il faut souligner, c'est l'idée de mettre des lois qui vont incriminer carrément ces pratiques-là. Et il faut aussi que tout le monde puisse vraiment encourager pour qu'on puisse aller de l'avant, pour que cette question ne soit plus, parce que nous, en tant que Mauritaniens, on en souffre. Mm-hmm. On en souffre énormément, parce que qui voudrait savoir que son pays est accusé de pratiques d'esclavage? Personne ne voudrait de cela. Moi, en tant que citoyen mauritanien, qui vit en France, qui suit la situation de l'intérieur, je suis vraiment un peu secoué à chaque fois que j'entends il y a l'esclavage. Mm-hmm. Pendant que d'autres pays sont encore dans d'autres situations où ils parlent d'aller vers la Lune et autre chose. Mm-hmm. Donc, je crois que cette question devrait être posée de la manière la plus...
Dépassionnée.
N'est pas la politiser. Évitez vraiment de rentrer dans les positions. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Parce qu'à cet instant, on a deux positions.
On est obligé, mais c'est
le Mauritanien qui parle. On est obligé. Mais dans ce sens-là, parce qu'il y a deux positions claires, mais je suis content de savoir qu'aujourd'hui, la pratique et que le marché de l'esclavage n'est plus aujourd'hui vraiment sur le territoire mauritanien. Peut-être qu'il y a des zones d'or comme tout pays, parce que ça échappe à tout contrôle, comme dans d'autres pays, et qu'il faut vraiment que les Mauritaniens et les militants des droits de l'homme et l'État mauritanien puissent travailler en convergence pour trouver une solution, des solutions vraiment claires pour qu'on puisse avancer dans cette situation.
Je vais dire un mot par rapport à ce...
Vraiment un mot, je vous jure.
Par rapport à ce que Brahim Lebeti, maître Lebeti a dit, et que tout le monde est absolument juste, il dit que c'est un problème socio-économique, c'est un problème de partage de richesses. C'est un problème, en effet, c'est que nous avons des problèmes économiques, notamment pour les anciens descendants d'esclaves. Et de ce point de vue-là, il y a un problème réel qui a été posé. Il y a un rapport que j'ai lu en préparant cette émission et que je trouvais particulièrement intéressant. Il fait des recommandations que je trouve très justes.
C'est un mot de l'avocat.
Non, voilà, un mot, c'est fini.
Vous marchez sur le temps de tout le monde.
Très bien, il dit qu'il y a un problème d'accès de richesses, il faut le régler, on en convient. Il dit qu'il y a un problème de contrat social entre Mauritanien qu'il faut régler, j'en conviens. Un problème d'accès au marché de l'emploi, création d'une zone d'éducation spécialisée, il faut le faire. Et mieux, le problème de l'analphabétisme, de la réforme agraire, et puis d'un fonds
quand
spécial.
Quand je vais vous couper la parole, je serai mal poli. Pourtant, on est des amis.
Mais là,
quand je regarde mon temps de parole, je suis largement.
Je vous présente toutes mes excuses.
Voilà. Monsieur Koulibaly.
D'abord, il ne faut pas politiser le débat. Pour commencer. C'est important. Il ne faut pas le politiser déjà.
Il faut s'asseoir
quand on le politise déjà, c'est mort.
Allez-y vite.
Donc, moi, je préfère maintenant qu'on essaie de partir directement vers l'élément, là, à savoir maintenant cette pratique. Elle existe. Et à la forme maintenant, vous savez, la forme morale, encore pire que les tortures. Les conséquences. C'est très grave.
Non, on ne peut pas parler de conséquences quand c'est en train de se faire.
Mais c'est ça se fait. Non, pas de conséquences. Moi, je ne dis pas de l'appellation. Pas de conséquences. Puis ça existe déjà. Puisqu'on voit des esclaves, que ce soit des Haratines, que ce soit des Soninke, que ce soit des Halpura, que ce soit des Wolof, qui sont dans une situation chaotique. Il faut le reconnaître.
Non, on les a vendus. On ne les vend pas.
Non. Moi, je n'ai pas dit qu'on les vend. J'ai dit quoi les vend. Non.
L'esclavage n'est pas que la vente. L'esclavage, c'est aussi la pratique.
Il y a la pratique, il y a la tortue, il y a tout. Exactement. Il y a la privation, tout. Quand on prive un individu déjà, le savoir, le pouvoir. Et l'avoir, c'est la mort.
Mais
Maître Ebeti, aujourd'hui, la question était de savoir, réellement, il y a eu des lois, est-ce que ces lois sont appliquées, est-ce qu'il y a une réelle volonté politique? C'était ça le thème avant qu'on entre dans autre chose. Alors, y a-t-il une réelle volonté politique? Est-ce que ces lois-là sont réellement appliquées sur le terrain?
Écoutez, je crois qu'il y a une certaine rupture entre l'état des textes. Il y a des textes fort importants qui criminalise et qui sanctionne toute pratique esclavagiste. Mais je crois que la réalité est tout autre. Moi, ce qui m'inquiète le plus en Mauritanie, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, il y a des personnes qui acceptent d'être esclaves. Ce n'est pas le fait du pouvoir, ce n'est pas le fait des militants des droits de l'homme. Mais je crois aussi que le pouvoir des militants des droits de l'homme doit s'orienter vers cette personne pour leur expliquer qu'ils ne doivent pas accepter d'être esclaves. Deuxièmement, il faut une véritable...
Je vous interromps, vous allez continuer. Vous voulez dire qu'il y a des gens de condition esclaves qui disent « moi je veux rester esclave ». C'est bien ça?
Tout à fait. Tout à fait. Et on ne peut pas le reprocher au pouvoir. Mais on peut aussi le reprocher à l'envers pour dire « écoutez, le pouvoir doit mener une campagne de sensibilisation en direction de ces personnes, les mettre dans un état économique et social qui leur permet de s'arracher de leur situation d'asservie. »
C'est-à-dire l'une des dispositions dont parlait Maître Jamal à l'instant.
C'est assez compliqué. Vous savez, la Mauritanie est un pays assez faible. Il faut bien savoir le protéger. Mais aussi, il faut bien comprendre ces différentes contradictions.
Monsieur Mesaoud, dans la première partie, c'est vous qui avez lancé le pavé dans la mare. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les textes qui ont été votés sont appliqués?
D'abord, je proteste. Parce que tout le monde a parlé pendant 10 mois et je n'ai pas pu parler une seule fois.
Là, je vous donne la parole.
Moi, quand je parle de l'esclavage, nous parlons de l'esclavage, nous, pas avec des preuves. Nous ne parlons pas de littérature, nous ne sommes pas des littéraires, nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes des organisations qui ont créé des organisations pour venir en aide à ceux qui posent le problème. Mm-hmm. C'est bien que nous parlons de cela. Quand je dis qu'il y a esclavage, c'est parce que j'ai rencontré des esclaves qui sont venus me voir ou qui sont venus voir l'organisation que je dirige et ont porté plainte. Et pour retrouver la partie de leur famille qui est encore avec les maîtres. C'est des esclaves en général qui ont fui la campagne et qui sont venus nous voir. Et au cours de ces 15 dernières années, nous en avons rencontré plusieurs et nous les avons assistés autant que possible. Ce n'est pas des enfants nécessairement qui viennent me voir, c'est surtout des femmes, parce que c'est les femmes qui justement ont bien posé le problème. Parce que les hommes, quand un esclave fuit, il s'en va et il disparaît dans la nature. Mais la femme, quand elle vient dans la ville, ensuite, au bout de 6 mois, elle est taraudée par le remords parce qu'elle a laissé ses enfants derrière elle, parce qu'elle a laissé sa mère derrière elle, elle a laissé sa tante. Elle a le choix d'aller chercher quelqu'un pour l'aider ou bien de retourner au village. Mmh. Et justement, dans mon enfance, j'ai souvent entendu parler de cela. Parce que souvent, on se moquait de ces gens-là qui venaient demander assistance. Mmh. Et on rit d'eux. Mais nous avons décidé de créer une organisation pour justement porter secours à ces gens-là, les assister. Donc la Mauritanie prétend que l'esclavage n'existe pas. L'État mauritanien prétend que l'esclavage n'existe pas. Nous démontrons son existence par la présence ou la présentation de cas bien précis.
Tout à fait. Mais là, monsieur Mesaoud, c'est parfait que vous reveniez sur l'historique. Mais aujourd'hui, avec la batterie de mesures mise en place, est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est efficace?
J'ai le sentiment que nous marchons très lentement. Mais nous marchons. Oui, mais nous marchons parce que nous sommes là et nous sommes résolus à continuer à nous battre jusqu'à ce que l'esclavage soit réellement combattu. Parce qu'il n'est pas réellement combattu. Je ne suis pas d'accord avec les amis qui ont dit certaines choses, parce que certaines nuances sont, à mon avis, pas de citer aujourd'hui, ne doivent pas être citées aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la loi, les lois qui ont été prises sont appliquées de manière tellement fantaisiste et tellement malhonnête. Je dis bien malhonnête parce que quand vous prenez un esclavagiste, vous dites que votre loi, la peine minimale, c'est 5 ans. Vous le connaissez à 1 an. Quand vous changez la loi, vous dites que la peine minimale, c'est 10 ans. Vous le condamnez à 2 ans. Et comment, quand vous avez une plainte qui concerne 4 individus, 5 individus, une famille, une dame qui vient avec ses enfants ou avec ses cousines, et elles étaient partagées entre des familles, et chacune d'elles travaillait ou chacun de travailler pour ses familles, et on ramène au tribunal une femme, et on amène au tribunal de la part des maîtres un individu. On réduit l'esclave à une personne, et on réduit le criminel à une personne. Ce qui est faux, alors que nous avons affaire à une famille de 4 ou de 10 ou de 20 personnes, qui s'est partagé plusieurs personnes et qui les exploite depuis des années, voire des décennies.
Bien. Aminatou Mine El Mokhtar, je pense que vous étiez sur la même ligne en disant, oui, il existe des règles, des lois, des textes, mais ils sont appliqués très timidement.
Oui, je dis que l'effet des lois et de toutes les politiques aujourd'hui en ce qui concerne la lutte contre l'esclavage sont appliqués timidement, c'est sous la loi. Parce que tout d'abord, les magistrats sont en général, d'une manière générale, des fils d'esclavagistes qui ne veulent pas appliquer la loi. C'est-à-dire que la loi, l'esclavage aujourd'hui, il demeure, comme je l'ai dit, pratiqué, mais il y a aussi l'aliénation qui pose problème. Parce que les victimes de l'esclavage sont aliénées, aliénées religieusement, aliénées psychologiquement, parce qu'il faut une gestion, et d'ailleurs, il y a une gestion qui a été faite et qui ne répond pas réellement à l'éradication de l'esclavage dans le pays. Ce que je voulais dire, c'est que l'esclavage n'existe pas seulement en Mauritanie, il existe dans d'autres pays.
Malheureusement, voisins, et on en a vu pas mal en Arabie Saoudite.
Au Niger, il existe un peu partout. La volonté, moi je crois que reconnaître une pratique qui existe et qui est là et qui est présente d'une manière transversale n'est pas un crime de reconnaître que ça a été fait, mais c'est le crime, c'est de vouloir faire des lois, faire des textes et ne pas les appliquer. C'est là où il y a le problème. Si on reconnaît déjà l'existence de l'esclavage et qu'on a la volonté d'éradiquer cette pratique inhumaine et dégradante, nous allons la reconnaître pour mieux la combattre. Et c'est ça qu'il faut. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est dire que l'esclave qui est esclave, parce que moi je ne parle pas ici des séquelles de l'esclavage qui sont très nombreuses et qui sont là et qu'on en parle beaucoup. Elles sont un problème pour les émanciper les descendants d'esclaves, émanciper les esclaves. Et il faut dire l'esclave ne peut pas la femme esclave, par exemple, ne peut pas choisir son conjoint, elle ne peut pas décider d'elle-même, elle ne peut pas créer une famille. Donc, elle ne peut pas accéder à la propriété, elle n'a pas l'accès à la propriété. Donc, elle est considérée comme une partie du bien du maître. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on est à l'ère de la mondialisation de l'état de droit et on reste à des pratiques inhumaines et dégradantes qui sont de l'antiquité. Et bien, c'est ça ce qu'il faut combattre.
Maître Ebeti, est-ce que la loi est bien appliquée?
Écoute, dire que la loi est bien appliquée exige un ensemble de paramètres. La volonté que la loi soit appliquée, la prise de conscience des faits et des différentes infractions commises. Je crois qu'il y a la loi, mais il y a des insuffisances en matière d'application. J'ai dit bien qu'il y a un écart entre l'état de la législation qui est plus ou moins étoffé et la réalité de la pratique. Il y a une véritable rupture, malheureusement. Et je veux que cette rupture soit surmontée, et je crois que par un effort de sensibilisation, un effort de formation aussi bien des magistrats que de l'ensemble des ONG et que le gouvernement aussi prenne conscience qu'il n'y a pas seulement des séquelles mais des pratiques. Tous ces efforts conjugués nous permettront d'assurer l'application de la loi et je pense que c'est le souhait de tout le monde.
Un mot, parce qu'on arrive au terme de l'émission.
Un mot, c'est un débat très passionnant.
Et très passionné.
Non mais évidemment, et la vérité, le devoir de vérité impose de respecter le travail fait par Boubacar Al-Massoud, par le mouvement Al-Hur, par mon frère Bilal Al-Warzeg, par Boubacar Al-Massoud, mais aussi le travail remarquable fait par Amin Atoubed Mokhtar, c'est pas la question. Après on n'est pas d'accord sur un certain nombre de détails.
Malheureusement,
si vous voulez que nous organisions une police de la pensée, on n'en est pas capable. Le gouvernement mauritanien n'est pas capable de le faire. Quoi que fasse le gouvernement mauritanien, il fait voter une loi, on lui dit elle est suffisante.
Malheureusement, il me fait signe en me disant que nous arrivons au terme de l'émission. Malheureusement, c'est pas moi qui fais le temps.
Et on lui dit de mettre des tribunaux en place, ça n'est pas suffisant. Il criminalise, c'est pas suffisant.
Merci à vous d'avoir accepté de venir débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
En sol majeur.